avec le patrimoine naturel, un patrimoine historique, artistique et culturel également menacé. Il fait partie de l'identité commune d'un lieu et il est une base pour construire une ville habitable. Il ne s'agit pas de détruire ni de créer de nouvelles villes soi-disant plus écologiques où il ne fait pas toujours bon vivre. Il faut prendre en compte l'histoire, la culture et l'architecture d'un lieu en maintenant son identité originale. Dans cet extrait du paragraphe 143 de Laudato Si, François exprime son attachement à une ville humaine plutôt qu'à une ville technique. Mais s'il insiste tant sur ce point, c'est que bien souvent c'est vers la ville technique, vers la ville entreprise, que les politiques actuelles nous mènent en suivant les rails de la métropolisation. Olivier, vous nous parlez aujourd'hui d'un mot qui sonne un peu technique, la métropolisation, c'est bien ça ?
Oui, et le but, ça va être de donner quelques clés de lecture par rapport à l'évolution de nos villes. Souvent, on critique leur croissance trop rapide, avec notamment les bouchons qui s'allongent, leur uniformisation, on regrette une démocratie participative bien faible, et tout ça, en fait, ça vient pas de nulle part, ça vient d'une politique qu'on va essayer de décortiquer ensemble.
Olivier, vous nous parlez aujourd'hui de la métropolisation en étudiant un cas concret, le projet d'urbanisme des Goars à Nantes. Qu'est-ce que c'est que ce projet, Olivier ?
Alors, c'est un projet qui vise à urbaniser une zone située entre le quartier du Vieux-Doulon à Nantes et puis la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Donc, c'est une grande zone qui était autrefois occupée par des tenues maraîchères. Et donc, Nantes Métropole a peu à peu préempté, racheté tous ces terrains année après année. Et maintenant, donc, il y a ce projet d'urbanisme.
C'est un projet de quelle taille ?
Alors, il s'agit de construire 3000 logements sur une cinquantaine d'hectares. Le projet va s'étendre sur 30 ans. Donc 3000 logements, ça peut sembler beaucoup, et c'est beaucoup effectivement. Et pourtant, ça correspond seulement à 6 mois de besoin en nouveaux logements de la métropole nantaise.
C'est hallucinant.
C'est hallucinant. Et donc ça, c'est les chiffres. Je vais beaucoup citer les chiffres de Laurent, A-U-R-A-N. Je remettrai les références dans le podcast.
Laurent, qui est une agence d'urbanisme de la région nantaise.
C'est ça, tout à fait. Donc, qui a Pignon-sur-Rue, qui est tout à fait officiel. Voilà, et donc c'est dire 3000 logements pour 6 mois seulement de besoin, c'est dire le nombre de projets qu'il faut entreprendre sans cesse pour suivre ce rythme effréné. Et alors 50 hectares, je parlais de 50 hectares urbanisés, pour se faire une idée, ça correspond à 6 fois le jardin des plantes, 7 fois même le jardin des plantes. Ce qui veut dire que pour assumer les besoins de Nantes Métropole, il y a besoin de construire l'équivalent de 7 jardins des plantes tous les 6 mois. Alors c'est un peu schématique comme approche, puisqu'on sait très bien qu'en réalité... Il y a des projets plus denses, toutes formes de projets existent, mais ça donne un peu idée de la nature des choses. Et du coup, moi, je trouve que ça donne envie de questionner ce fait qui nous semble inéluctable, qui est le besoin d'accroissement. Ça serait petit, ça serait pas forcément gênant, mais là, c'est tellement énorme qu'on se dit, mais quand même, questionnons tout ça.
Oui, tout à fait. Et puis j'aime bien le fait que vous citiez, enfin, que vous compariez avec le jardin des plantes. Ça nous donne une bonne idée, c'est assez visuel. Alors, c'est beaucoup, hein, mais l'argument qu'on vous répondra, Olivier, c'est qu'il faut bien loger les gens. On a vu des grosses crises de logement avec les migrants ces derniers temps. On sait que l'étalement urbain est mauvais. Il vaut mieux donc densifier en urbanisant cette zone intrapériphérique.
Oui, alors c'est ce qui revient systématiquement, l'argument qu'on entend toujours. Mais là, je vais m'engager un petit peu. S'il n'était pas, à mon sens, profondément absurde, j'ose le mot, moi aussi, je me serais rangé derrière cet argument. Et au Jardin des Ronces, notamment, les gens s'y seraient rangés également. On en parlera la semaine prochaine. De mon côté, j'ai pas moins de 5 tristesses à vous partager.
5 tristesses, Olivier ? Bon, on va sortir les mouchoirs.
Sortons les mouchoirs. D'abord, cette explosion de la population de la région nantaise, c'est le fruit d'une politique. C'est pas une fatalité, c'est la conséquence notamment d'une concurrence exacerbée entre les métropoles régionales. Bon, on en parlera tout à l'heure au sujet de la métropolisation. Mais c'est pas très honnête de la part des pouvoirs publics de nous présenter ce fait comme un fait inéluctable alors que c'est le fruit d'une politique voulue. Et les villes qui saturent, eh ben, c'est triste. On parlait de pollution, de bouchons, etc. Et les campagnes qui se vident, c'est également triste. Donc en fait, cette politique qui a pu être utile à un moment donné d'augmentation de la taille des grandes métropoles, elle entraîne aujourd'hui deux tristesses. Donc ce qui serait peut-être une bonne chose, on en discutera peut-être d'autres fois, mais c'est de modifier cette politique d'occupation du territoire pour que les campagnes revivent, ce qui serait heureux, et que les villes respirent, ce qui serait également heureux.
Alors, pollution et bouchons, première tristesse, désertification des campagnes, seconde tristesse, et la troisième ?
Alors avant ça, je vais ouvrir une parenthèse, parce que quand je parle de tristesse, je ne parle pas, encore une fois, de tristesse qui serait inévitable et dont il faudrait s'accommoder. C'est pas comme nous, êtres humains mortels, il faut bien qu'on trouve le chemin pour accepter notre propre mort. Là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il y a comme une rationalité supérieure qui cherche à imposer le fait qu'il faille aller toujours plus loin dans l'impasse, au prétexte justement que cette rationalité, elle est convaincue qu'on ne peut pas sortir de cette solution et qu'on n'a pas d'autre choix que la fuite en avant, c'est-à-dire continuer toujours plus loin ces politiques. Je pense qu'il vient un moment où les choses sont suffisamment sinistres, c'est pour ça que je parle de tous ces fruits tristes, de ces cinq tristesses, pour qu'on décide de tout remettre à plat. La politique publique n'est pas là pour composer avec un désastre qu'elle contribue à créer, mais pour offrir les conditions d'épanouissement. On pourrait redonner la définition du bien commun dans la doctrine sociale de l'Église, l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection de façon plus totale et plus aisée. Et bien, en tant que chrétien, et d'ailleurs en tant qu'être humain, il est grand temps de dénoncer cette mutilation consentie de nos vies, de nos espaces de vie. Voilà.
Eh bien, parenthèse fermée, Olivier.
Parenthèse fermée, j'avais besoin d'exprimer tout ça. Troisième tristesse, on parle de la densification. Très bien, mais il faut savoir qu'il y a 15 000 logements vacants à Nantes Métropole, qui attendent tristement, encore une fois, des rires d'enfants. 15 000, ça fait quand même 5 fois le projet des Goars. Et ça fait aussi du travail pour des artisans, des lieux qui reprennent vie, etc. Donc ça aussi, c'est plutôt heureux.
Alors, 15 000 logements vacants, ils sont où ces logements ?
Ils sont un peu partout dans la ville. Il y a des tas de raisons qui font qu'un logement est vacant, mais c'est autant de solutions à trouver pour qu'il ne le soit plus, plutôt que de... Encore une fois, c'est les chiffres, je crois, de Laurent. Enfin, je mettrai les chiffres dans le podcast, en tout cas.
Alors, quatrième tristesse ?
Oui, une tristesse encore plus grande. Alors là, ça demande un peu de calcul. Le nombre de personnes par foyer baisse en France, sûrement dans tout l'Occident, et à Nantes notamment. Notamment dû au divorce, et plus généralement au fait qu'on est de plus en plus de difficultés peut-être à vivre ensemble. Ben ça aussi, c'est triste. Et c'est triste pour nos vies à nous, mais ça a des répercussions énormes sur les besoins en logement. Il faudrait refaire le calcul plus détaillé, mais à population constante, entre 2006 et 2011, il a fallu 8000 logements de plus pour loger la population, du simple fait qu'on est de moins en moins par logement. Et au regard de ça, l'augmentation de la population se traduit par 7000 logements en plus. Ce qui fait qu'en fait, le plus gros poste qui fait qu'on a besoin de logements, c'est pas l'augmentation de la population, de l'attractivité, mais c'est d'abord le fait triste qu'on est de moins en moins à vivre par logement.
Alors vous citez des chiffres assez intéressants. En 2006, on était 2,16 personnes par foyer, hein, ce sont des statistiques évidemment. Et en 2011, on était 2,10, donc ça baisse quand même.
Ça baisse. Alors ça fait pas des gros chiffres comme ça, mais sur les 500 000 habitants de la Nantes Métropole, ça fait des 8 000 besoins de logement. Voilà. Et là encore, le choix heureux, ça serait d'insuffler une nouvelle politique du vivre ensemble. Moins de personnes seules, ça serait heureux. Et puis moins de béton dans les champs, ça serait heureux également.
Et alors la dernière tristesse, Olivier ?
Oui, on nous parle de densification pour éviter l'étalement, mais les surfaces maraîchères qui vont être urbanisées sur le projet des Goars, même si c'est dans le périphérique nantais, ça reste de l'étalement parce qu'il y a du béton qui va être coulé à des endroits où il y a de la terre maraîchère. Et on sait très bien l'état de la biodiversité, des oiseaux et des insectes. On sait très bien que c'est pas du tout isolé, que c'est un phénomène global et que l'équivalent d'un département français passe sous le béton tous les 8 ans. Voilà, encore quelque chose qui est triste. Et donc, pour conclure, tant que la nature sera la variable d'ajustement, on continuera dans la même logique, avec des tristes conséquences, pas que pour la nature, des tristes conséquences à tous les niveaux. Et si on change de logique, alors les retombées peuvent être heureuses.
Mais il faut bien loger les gens pourtant, Olivier.
Alors voilà, cette assertion, elle est centrale. Et elle fait partie des fausses évidences qui deviennent incontournables si on décide de dire que tout autre modèle est absurde. Voilà. Mais on va y revenir dans un prochain apport sur cette question.
Alors vous parlez, Olivier, de manque d'honnêteté. Vous semblez nous dire que les politiques rejettent l'intérêt général. C'est presque complotiste, ça.
Ah oui, effectivement. Non, les élus sont probablement convaincus, de bonne foi, que la dynamique démographique est nécessaire pour la croissance de l'économie et pour réduire le chômage. Je veux bien leur donner... leur faire confiance là-dessus. Mais de notre côté, et il y a énormément de gens qui réfléchissent sur ces questions, on a parlé déjà à plusieurs reprises dans Fleur de sel d'autres moyens qui existaient pour s'attaquer au chômage, qui permettait de ne pas avoir besoin de cette croissance infinie qui crée tant de maux dans notre société. Arnaud, vous parlerez du ralentissement du travail, moi je parlerai du partage. Il y a des solutions qui existent et il est temps de se pencher sérieusement dessus.
Olivier, quand on parle de ces sujets, on parle aussi souvent donc du fameux mot « métropolisation ». Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce terme ?
Oui, alors il y a 22 métropoles en France, donc Nantes Métropole, Rennes Métropole, Bordeaux Métropole, etc. Donc la métropole correspond à un cadre institutionnel, mais ce n'est pas sur ce point qu'on va s'apesantir aujourd'hui.
Alors certains parlent même de Nantes Nécropole.
Nécropole, c'est un petit pied de nez des contestataires, absolument. Voilà, on va plutôt voir la métropole comme un objet d'étude intéressant qui se différencie de la ville. C'est-à-dire que la métropole, ce n'est pas simplement une grosse ville, c'est un autre objet que la ville.
Et alors, indépendamment de l'aspect institutionnel, qu'est-ce qui définit cet autre objet ?
Alors, la métropolisation, c'est la transformation des villes. Alors, le pape parle, par exemple, dans Laudato si 151, des villes comme un lieu où on peut ressentir notre sens d'appartenance, notre sensation d'enracinement, notre sentiment d'être à la maison, dans la ville qui nous héberge et nous unit. Voilà pour la citation du pape. Donc, la ville comme un objet vécu, on pourrait dire, la ville qu'on s'approprie, la ville où on vit, avec des spécificités, avec du vivre ensemble. Et donc, cette transformation de la ville vers la métropole, qui est un objet technique. On parle de ville entrepreneuriale, d'entité offerte à la logique libérale. Voilà. Et de conversion, on va revenir tout à l'heure, à un nouveau régime d'accumulation économique. Alors on a beaucoup dit que les hôpitaux avaient été colonisés peu à peu ces dernières années par la logique d'entreprise. Les écoles, les lycées, les universités, ça pourrait être le cas aussi peu à peu. Eh bien, il en va de même pour la ville.
Alors des villes qui se transforment en métropoles, quel est le contexte de ce phénomène ?
Alors c'est intéressant de faire un petit recul historique. À l'époque industrielle, pour développer sa prospérité, la ville s'appuie sur l'industrie qui produit des richesses. Mais depuis les années 70, on constate un recul de l'industrialisation. La ville a peu à peu cessé d'être un lieu de production industrielle. Et comme elle ne peut plus s'appuyer sur cette forme de création de richesses, eh bien, elle recherche d'autres moyens. Et finalement, elle y parvient en se transformant elle-même en produit. La ville devient un produit.
Mmh.
Et donc, si elle sait bien se vendre, elle va attirer le dynamisme économique, les hauts revenus, son foncier, le prix du terrain et des bâtiments va exploser. Et donc, ça va faire une création de richesse. Alors, c'est une création un peu virtuelle, mais au moins, tant que la bulle spéculative dure, on pourrait dire, eh bien, ça a une valeur. Et pour bien se vendre, la ville ne mise plus donc sur le capital industriel, mais sur son capital symbolique, culturel, architectural. On parle alors de marketing urbain, qui est un effort de communication pour que les imaginaires collectifs soient tous orientés vers ce nouveau projet de ville créée de toutes pièces.
Et on pense au voyage à Nantes, tout de suite en vous écoutant,
absolument.
Qui est un produit alors qui rentre bien dans vos cases.
Un produit marketing, absolument. Et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de... ça peut être très beau, ça peut faire rêver les gens, etc. Mais c'est le fruit de cette politique. Donc il est bon de le savoir.
D'accord. Alors la ville crée de la valeur à partir du désir de venir y habiter, en somme, si je vous suis Olivier.
C'est ça.
Mais nous avons laissé, par exemple, le projet des Goars de côté depuis un petit moment. Vous voulez bien qu'on y retourne ?
Avec plaisir, d'autant plus que ce projet illustre parfaitement les principaux ressorts de la métropolisation.
Alors, quels sont-ils ?
Alors, il y a d'abord la concurrence entre les territoires. Donc, on parlait de la recherche d'un dynamisme démographique le plus grand possible à Nantes. C'est du fait qu'il y a Nantes qui est en concurrence directe avec Rennes et Bordeaux. Il faut être parmi les villes qui comptent.
Ah, pas qu'en foot alors ?
Non, pas qu'en foot, partout. On trouve aussi une organisation sur le quartier, une organisation optimisée et spécialisée de l'espace. Donc les Goars seront probablement une zone plutôt dortoir, comme l'est le quartier Bottière qui a été construit juste au nord. Il y a d'autres quartiers qui sont des bureaux. Enfin, on organise vraiment les choses. Au passage, l'extrait de Laudato si que vous avez lu en début d'émission, Mathilde, illustre très bien le souhait du pape de voir des villes dans lesquelles les identités ne sont pas gommées ni standardisées. Prendre en compte l'histoire, la culture et l'architecture d'un lieu en maintenant son identité originale. Et il précise la culture non seulement dans le sens des monuments du passé, mais surtout dans le sens vivant, dynamique et participatif. Alors troisième point, on retrouve aussi une parodie, j'ose le mot, de démocratie participative. Donc là encore, c'est un outil de communication de Nantes Métropole qui va générer souvent de la déception parmi les habitants. C'est-à-dire que les vraies questions d'augmentation profonde, elles ne sont pas abordées. Le projet des Goars n'est pas débattu en tant que tel, mais par contre, l'habitant a le droit de dire des petites choses, mais vraiment très 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 annexes. Et puis, voilà, on retrouve d'ailleurs dans Laudato si, encore une fois, des passages très forts sur le besoin de transparence et de dialogue. Je vous invite à relire toute la partie 183-185. Je peux par exemple lire « Une série de questions devrait se poser en vue de discerner si elle offrira ou non un véritable développement intégral. Pourquoi? Par quoi? Où? Quand? De quelle manière? Pour qui? Quels sont les risques? À quel coût? Qui paiera les coûts et comment le fera-t-il ?» etc. etc. Donc je vous invite vraiment à lire ces passages qui sont très intéressants là-dessus. Il y a aussi, on retrouve souvent ça dans les projets de métropolisation, un effort marqué sur le volet écologique. On parle de greenwashing parfois. Nantes Métropole met beaucoup l'accent sur les fermes urbaines. Effectivement, il y aura quelques fermes urbaines sur le site, mais elle occulte complètement dans sa communication les 3000 logements qui vont être construits. On peut aussi parler de la gentrification, qui est le remplacement des populations précaires par des populations aisées. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et sur le projet des Goars, les populations historiques, les Roms, tout ce qui est jardins cheminots aussi, les gens du voyage, vont être déplacés un peu plus loin pour permettre à ce quartier de changer de standing et de créer de la richesse. Et enfin, un dernier aspect de la métropolisation, le retour aux grands projets, les projets d'envergure. Alors, les Goars, ça entre dans cette liste, mais on peut aussi penser au Yellow Park ou à l'Arbre au Héron, qui sont des projets vraiment d'envergure dans la ville de Nantes.
Yellow Park, Arbre au Héron, y a-t-il une réaction de la population contre ces projets?
Alors, je rappelle d'abord qu'il s'agit ici de projets nantais, mais qu'on retrouve les mêmes logiques dans toutes les métropoles. Alors, à Nantes, il est bon de constater effectivement qu'il y a une réaction qui se met en place, mais que cette réaction s'est adaptée à l'échelle métropolitaine, et donc c'est plus simplement des habitants qui luttent pour leurs droits et pour le bien commun à échelle du projet, mais bien maintenant une résistance qui se met en place au niveau métropolitain. On peut rappeler d'ailleurs l'invitation du pape à ce sujet, Laudato si 679, il faut que la décision politique soit incitée par la pression de la population. La société, à travers des organismes non gouvernementaux et des associations intermédiaires, doit obliger le gouvernement à développer des normes, des procédures et des contrôles plus rigoureux. Si les citoyens ne contrôlent pas le pouvoir politique national, régional et municipal, un contrôle des dommages sur l'environnement n'est pas non plus possible. Et je voudrais aussi insister sur un dernier point. Il est temps, je crois, de faire ce trait d'union manquant entre les luttes étiquetées de droite chrétienne, les luttes par rapport au respect de la vie, à l'avortement, à l'euthanasie, etc., et les luttes étiquetées traditionnellement de gauche laïque. Tout simplement, il est légitime de combattre toute politique qui affecte la dignité de l'homme et plus largement de la création, et on est vraiment dans ce cas sur la métropolisation.
Merci Olivier de rappeler ce thème d'ailleurs qui nous est cher sur Fleur de Sel, un peu transcendons nos limites habituelles.
Tout à fait.
Alors, quelques lectures à nous proposer pour aller plus loin ?
Oui, alors j'invite moi rarement à lire des livres, contrairement aux érudits Loïc et Arnaud, moi je lis pas beaucoup. Mais par contre, je fais partie de ma génération et donc...
Ne faites pas de mauvais esprit aujourd'hui.
Non mais pas du tout, j'honore leur travail. Moi par contre, voilà, je suis dans ma génération et je vais plutôt sur Internet et j'ai trouvé, je mettrai tout ça en podcast, la conférence des amis du monde diplomatique à Montpellier, qui se trouve sur YouTube, ou aussi une conférence gesticulée que j'avais vue à Nantes. C'est fait par deux jeunes urbanistes qui sillonnent la France en présentant un peu le résultat de leur travail. Qui ont fait tout un tour en fait de France à vélo et qui développent toutes ces questions de métropolisation. Voilà.
Merci Olivier, on y voit plus clair.